Chapitre 7. Bannon se sentit très mal à l'aise quand Lila et lui retournèrent dans la zone des fosses de combat près de l'arène. Pour lui, cet endroit était hanté par de très mauvais souvenirs, mais les gladiateurs avaient insisté pour s'y réunir, le seul lieu au monde où ils se sentaient chez eux. Là, des années durant, ils s'étaient entraînés pour mieux divertir les citoyens d'Ildakar en s'entretuant sous leurs yeux. Aujourd'hui, voilà qu'ils devaient défendre la cité qui les avait réduits en esclavage. À en juger par le nombre d'assaillants, le défi serait de taille. S'il s'était reposé depuis la nuit d'émeute, Bannon n'avait pas réussi à se détendre. La ville assiégée, il allait devoir se battre pour elle alors qu'il ne s'y était jamais senti bien. Réveillé depuis 3 jours, les soldats d'Outros martelaient de coups de poing le mur d'enceinte sans grand effet jusque-là. Quant au général, il n'avait envoyé aucun ultimatum, ni l'ombre d'un émissaire d'ailleurs. Pourtant, Ildakar devait se préparer au combat. Lila suivait Bannon comme son ombre. Pour quelle raison? Durant sa captivité, elle lui avait imposé un entraînement démentiel pour qu'il puisse affronter dans l'arène un pauvre gladiateur ou un fauve affamé. Après l'avoir malmené, elle semblait le considérer comme un ami, ou en tout cas quelqu'un de spécial pour elle. L'ennui, c'était qu'il ne s'était jamais langui de sa compagnie. Pour cette séance d'entraînement, Lila avait convoqué une vingtaine de ses collègues. Des durs parmi les durs, parfaites pour préparer les gladiateurs à la plus terrible bataille de leur vie, et la dernière très probablement. Loyales à leur cité, ces femmes refusaient d'accepter que les choses, depuis les émeutes, n'étaient plus comme avant. Dûment conditionnés, les gladiateurs, pourtant 10 fois plus nombreux, ne remettaient pas en question la domination de leur formatrice. Avant tout, ils étaient venus pour se fournir en armes. Comme Bannon, beaucoup s'étaient ralliés à Masque Miroir lors de la révolte. Face à la menace extérieure, ils consentaient à faire corps avec le reste de la population. Contrairement aux esclaves, pleins de haine après des siècles d'humiliation et de mauvais traitements, les gladiateurs avaient le sens des priorités. Une fois Outros vaincus, ils comptaient bien imposer leurs arguments philosophiques et modifier radicalement les structures du pouvoir, s'il restait des survivants à Ildakar. Bannon, lui, espérait avoir filé quand on en arriverait là. En attendant, il détestait être de retour sur les lieux où il avait si souvent ferraillé contre Lila et même un jour dû affronter la panthère Mra. Autour de lui, les gladiateurs faisaient mine de se préparer à une journée d'entraînement ordinaire, mais ils savaient que l'enjeu était bien plus important que ça. Une bande hétéroclite d'hommes musclés, couverts de cicatrices et rompus à toutes les violences. Des survivants professionnels, en somme. La plupart vêtus d'un simple pagne, quelques privilégiés arborant une cuirasse, ils puisèrent dans l'armurerie, chacun optant pour l'outil meurtrier qu'il préférait. Entre les épées, les glaives, les crochets et les piques, le choix ne manquait pas. Dans la grotte illuminée par des torches, Lila tenait un fouet dans une main et une épée courte dans l'autre. À la ceinture, elle portait sa pointe douleur, un artefact qui ressemblait au manche d'un poinçon. Sauf qu'il était couvert de runes et qu'il en sortait une petite aiguille capable d'infliger une souffrance incroyable à n'importe qui. Bannon en avait fait l'expérience quand la Moracite, pour le punir et le pousser à s'entraîner plus dur, l'avait gratifié d'une brûlante démonstration. À présent, comme si elle croyait qu'il avait oublié, elle le traitait cordialement. L'air déterminé, elle balaya du regard la foule des combattants. Derrière elle, ses collègues, aussi belles et menaçantes, observaient la scène en silence. Pour les avoir vus entraîner les gladiateurs, Bannon en connaissait plusieurs par leur nom. Kedra, Lies, Marla, Thorn, Genda, Richia. Contrairement à Lila, aucune ne lui avait accordé ses attentions spéciales. En attendant qu'Outros passe à l'action, nous ferons de vous les meilleurs combattants possibles. Des soldats, dois-je même préciser, car c'est une guerre qui nous attend. Lila se tut quelques instants avant d'enchaîner. Adessa est partie. Selon des témoins, elle a quitté la ville la nuit des émeutes, peut-être pour accomplir une mission. Quoi qu'il en soit, son sort ne nous regarde pas. Sous mon commandement, les Moracites continueront à vous former. Pour Ildakar! Bannon jugea bon d'intervenir. Il n'est plus question de nous battre pour amuser les nobles, vous devez le comprendre. Ce temps-là est révolu. Nos ennemis, ce sont les soldats qui grouillent dans la plaine, eux et eux seuls.
Bien vu, mon gars.
railla Lila. Tu crois que les affronter sera moins dur que combattre dans l'arène? Un peu de sérieux. Un affrontement à mort est un affrontement à mort, dans une fosse de combat comme sur un champ de bataille. Notre but, c'est de vous doter des compétences requises. Les autres Maurassides bombèrent le torse, levèrent leurs armes et défièrent du regard les gladiateurs. Aujourd'hui, mes sœurs et moi sommes prêtes à tout pour que vous soyez aptes à survivre sur un champ de bataille. Si vous vous faites transpercer le cœur dès que vous y mettez un pied, ça n'aidera pas beaucoup Ildakar. Lila chercha le regard de Bannon. Je compte bien que tu survives, mon gars. Si tu te fais tuer comme un crétin, ça me décevra beaucoup. Moi aussi, lâcha Bannon, sans une once d'humour ni d'ironie. Il brandit solide et fit quelques mouvements à blanc pour chauffer ses muscles. Sur son île, il avait longtemps travaillé dans les champs de choux. Son père, un ivrogne, était incapable de contrôler sa violence. Bannon en avait souffert, mais le salopard se défoulait surtout sur sa femme. Un jour, il l'avait battu à mort. Depuis, le jeune homme s'en voulait de ne pas avoir été là pour empêcher ça. Le meurtrier avait été pendu, mais ça n'était pas une consolation. Sentant la part d'ombre qui se tapissait toujours en lui, Bannon serra plus fort la poignée de son épée. Les Maurassites et les gladiateurs le laissaient indifférent. Tous faisaient leur métier et il n'y avait rien de personnel là-dedans. En revanche, la rage lui déchirait les entrailles lorsqu'il pensait à sa pauvre mère. Dire qu'il n'avait pas pu tuer de ses mains le foutu pochetron. Accélérant ses mouvements, il libéra sa violence, mais sans lui laisser la bride sur le cou. Parfois, dans le feu de l'action, il devenait enragé, une machine à tuer, oublieuse de tout et infatigable. Même avec l'appui des gladiateurs, il ne voyait pas comment la garde d'Ildakar pourrait repousser une attaque. Une lame percutant la sienne, il revint au présent et se campa en position défensive. De toutes ses forces, Lila martela solide deux coups, en visant la garde pour ne pas risquer de le blesser.
« Je n'étais pas prêt !»
protesta Bannon. La Maurassite éclata de rire. « Tu crois qu'Outros t'enverra un faire-part quand il attaquera ?» Lila poussa son avantage, la lanière de son fouet claquant dans l'air tandis que sa lame zébrait l'air. Conscient de ne pas avoir droit à l'erreur, Bannon para un estoc, puis se baissa pour éviter le serpent de cuir qui le visait. Dans la vaste grotte, les deux jeunes gens se battaient à quelques pas d'une des fosses les moins profondes. Au fond, le sable était additionné de cendres histoire de mieux éponger le sang. « Nous devons laisser aux autres la place de se battre, mon gars !» lança Lila. « Gladiateurs, affrontez mes sœurs. Battez-vous aussi entre vous et allez-y à fond, parce que votre survie dépendra de ce que vous aurez appris ici. Kedra, Thorn, Lies, choisissez des candidats. » Pendant que les groupes se formaient, Bannon jeta un coup d'œil à la fosse. « Je ne suis pas sûr que... » D'un coup d'épaule, Lila le fit basculer en arrière. Titubant, il tenta de reprendre son équilibre, mais la Maurassite bondit, le prit par la taille et le poussa dans le vide. Ils atterrirent sur le sable durci, la guerrière à califourchon sur la poitrine de Bannon. Se dégageant, il se releva et se mit en position défensive. Lila eut un rictus méprisant. « Mon gars, si tu veux ta récompense ce soir, il va falloir faire mieux que ça. »«
Ma récompense? Ça n'a rien d'une récompense. »
Trop souvent, durant sa captivité, Lila avait réussi à le séduire, ou plutôt à éveiller en lui un désir bestial qu'il n'était pas en mesure de contrôler.
« Je suis libre désormais. Tu n'as plus de chiot ni de prisonnier. »
« La liberté te rend débile et c'est très décevant. Tu sais que je déteste être déçu. » Lame et fouet en même temps, Lila attaqua comme une furie. Une pluie de coups que Bannon para ou esquiva de justesse. En haut, les Maurassites et les gladiateurs beuglaient à s'en casser la voix tout en se flanquant des coups de bûcheron. Un entraînement, ça? Eh bien oui, malgré les apparences. Si violentes qu'elles se montrent, les femmes en cuir n'avaient qu'une idée en tête, défendre Ildakar, et elles ne se laisseraient pas aller à massacrer des défenseurs potentiels.
« Douce mère, la mère !»
gémit Bannon quand la furie qui lui faisait face remonta à l'assaut. Plus offensif, il la repoussa, puis décocha un coup qui fit vibrer longuement la lame de la Maurassite. Vexée, elle frappa avec son fouet, mais dans un espace exigu, la longue lanière ne se révéla pas très efficace. Vif comme l'éclair, Bannon la saisit au vol, tira et déséquilibra Lila, qui bascula en avant. Lâchant la lanière, il attrapa le poignet de la Maurassite et l'attira vers lui. visage collé contre le sien, elle eut un grand sourire. « Tu me veux ici sur le sable? Quelle idée excitante! Qui sait, je vais peut-être te laisser faire. Tu as été très bon aujourd'hui. » Bannon repoussa la jeune femme.
« Tu m'as maltraité et frappé. Comment peux-tu croire que nous sommes ensemble ?»
Lila sembla sincèrement perplexe.
« Je t'ai formé, selon mes ordres. Grâce à moi, tu es devenu un meilleur guerrier. En d'autres termes, je t'ai sauvé la vie, ou au moins je te l'ai prolongée. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Je t'en veux d'avoir été incarcéré et forcé à me battre. Ildakar n'est rien pour moi. Je voulais sauver mon ami Yann, mais vous l'avez corrompu, il a tout oublié de sa vie d'avant. »« C'était notre champion, » fit Lila de plus en plus ébahie. « Nous le vénérions. » Adessa lui avait ouvert sa couche. Elle aurait peut-être même porté son enfant. Un homme ne peut rien vouloir de plus. « Tu es sûr ?»
lança Bannon. Il recula, toujours sur ses gardes.
« Moi, j'entends choisir ma vie. Je n'ai rien à faire dans une fosse de combat et je refuse que tu m'entraînes. »
Lila étudia de la tête aux pieds son adversaire. « Regarde le beau guerrier que tu es devenu. C'est grâce à moi. Tu devrais m'être reconnaissant. » Le souffle court, les deux jeunes gens ruisselaient de sueur. Oui, Bannon s'était bien battu aujourd'hui. Lila avait attaqué sans relâche, il avait résisté, finissant par la forcer à reculer. Bref, il était presque aussi bon qu'elle, sachant qu'elle s'imposait une certaine retenue. Déconcertée, elle sautillait d'un pied sur l'autre.
« Je te trouve bien étrange, mon gars. Je suis une mort assite et j'ai exécuté mes ordres. Que veux-tu de plus de moi ?»
Un jour, tu apprécieras sa juste valeur ce que je t'ai donné. Bannon devait ses compétences d'escrimeur à Nathan Rall, qui l'avait formé durant leur voyage. Avant, il maniait son épée avec la délicatesse d'un bûcheron, mais le vieux sorcier lui avait enseigné la précision et la finesse. Cela dit, c'était Lila qui avait fait de lui un véritable guerrier. Contraint d'affronter Yann, son vieil ami d'enfance devenu un tueur sans pitié aux yeux froids, il avait dû mobiliser toutes ses compétences pour sauver sa peau. Loin de le ménager, Yann l'avait poussé dans ses derniers retranchements. À la fin, il l'avait assommé au lieu de le tuer, une clémence délibérée. Bannon en aurait mis sa main au feu. Mais s'il avait baissé sa garde tôt dans le duel, il n'aurait plus été de ce monde, ça ne faisait aucun doute.
« Navré, Lila, mais je ne peux pas oublier le mal que tu m'as fait. Je sais qui tu es. Comment blâmer une vipère de m'avoir mordu? Le venin n'en reste pas moins dangereux. »
La Moracite ricana.
« Tu me compares à une vipère? J'espérais quelque chose de plus romantique. »
Les yeux plissés, elle durcit le ton.
« Mon gars, je m'appelle Bannon. Tant que tu ne penseras pas à moi comme à une personne, je te prendrai pour un serpent. »
« Comme tu voudras, Bannon. » Je me souviendrai de ton prénom de temps en temps quand tu l'auras mérité. Mais sache que mes sœurs et moi nous battons depuis toujours pour Ildakar et que ça n'a pas changé. Dans cette ville, nous avons tous le même ennemi. Pour ruminer des rancunes, il faut être un imbécile. Combat Outros, pas moi. Ainsi, tu découvriras que nous méritons tous les deux notre récompense.
Sans relâcher sa vigilance, de peur qu'elle en profite pour attaquer, Bannon réfléchit aux propos de Lila. En toute objectivité, elle avait raison.
D'accord. Pour l'instant, je veux bien oublier mon ressentiment envers toi et envers tes collègues.
Lila sourit. Sincèrement. Un très joli spectacle. La reine et les Moracites faisaient partie intégrante d'Ildakar depuis la création du linceul de l'éternité. Avec Bannon, malgré les apparences, Lila ne s'était pas montrée cruelle. Détachée de tout, elle avait fait son travail, simplement. Quand elle le récompensait en lui offrant son corps, elle voulait qu'il y prenne autant de plaisir qu'elle. Ces soirs-là, elle s'était toujours comportée comme une femme qui désire un homme, pas comme une dominatrice sadique. Considérant les raclées qu'elle lui avait flanquées, la compensation valait la peine.
« Ici, nous devons tous oublier nos rancunes, tu as raison, et nous entraîner pour devenir des guerriers impitoyables. »
Histoire de souligner qu'il en avait assez pour aujourd'hui, Bannon jeta solide dans le sable. En haut et dans les autres fosses, les combats continuaient. Lila se massa les bras, insistant sur un bleu qui lui avait infligé du plat de la lame. Bannon admira la fine silhouette de la Moracite. Une beauté sauvage, un peu comme Ra en un sens. Plus de ressentiment. Il repensa à Yann, sur l'île de Shiria. Un gosse innocent enlevé par les Norukai, des esclavagistes. Yann s'était sacrifié pour le sauver. De loin, Bannon avait vu une brute l'assommer avant de le ligoter puis de l'embarquer dans un canot. Plus tard, ses chiens avaient vendu Yann sur le marché aux esclaves d'île Dakar. Les Norukai, objet éternel de sa haine, eux ne méritaient pas de pardon. Les Morassites, en revanche, pourquoi ne pas occulter ce qu'elle lui avait fait? En défendant île Dakar, elle se rachèterait peut-être? Mais les Norukai étaient au-delà de toute rédemption. Jusqu'à la fin des temps, il les poursuivrait de sa détestation.